Alberto Knox se leva et se dirigea vers le vieux secrétaire. Il sortit quelque chose d'un des tiroirs et le posa sur la table du salon. C'était tout simplement une planche de bois épaisse de quelques millimètres à une extrémité et qui finissait en pointe à l'autre bout. À côté de la planche, qui recouvrait presque toute la table, il posa une bille verte. « C'est ce qu'on appelle un plan incliné », expliqua-t-il. « À ton avis, que va-t-il se passer si je lâche la bille à l'endroit le plus épais de la planche ?» Sophie soupira un peu agacée par la démonstration. « Je te parie 10 couronnes qu'elle va rouler sur la table et après tomber par terre. » « On va voir. » Alberto lâcha la bille et celle-ci fit exactement ce que Sophie avait dit. Elle roula sur la surface de la table, tomba sur le plancher avec un petit bruit sec et finit sa course contre le seuil de la porte. « Impressionnant !» dit Sophie. « Oui, n'est-ce pas ?» C'est précisément à ce type d'expérience que Galilée s'intéressait. Tu comprends? Il était vraiment aussi idiot que ça? Du calme. Il voulait tout examiner avec ses propres sens. Ce que nous venons de voir n'est qu'un commencement. Peux-tu m'expliquer pourquoi la bille a roulé en bas du plan incliné? Elle a commencé à rouler parce qu'elle avait un certain poids. Très bien. Et le poids, qu'est-ce que c'est, mon enfant?
C'est vraiment une question stupide.
Pas si stupide que ça, puisque tu n'es pas en mesure de me répondre. Pourquoi la bille a-t-elle roulé par terre?
Eh bien, à cause de la pesanteur.
C'est cela même, ou de la gravité, comme on l'appelle aussi. Le poids a donc à voir avec la pesanteur. C'est cette force qui a mis la bille en mouvement. Alberto avait déjà ramassé la bille par terre et la tenait de nouveau au-dessus du plan incliné. Observe attentivement le mouvement de la bille. Il se pencha et lança la bille en essayant de la faire glisser de biais le long de la planche. Sophie vit la bille dévier peu à peu de sa trajectoire et rouler en bas du plan incliné. Que s'est-il passé? Demanda Alberto.
Elle a roulé de travers parce que la planche est inclinée.
Je vais à présent colorier la bille avec du feutre. Nous allons de cette manière mieux voir ce que tu entends par « de travers ». Il sortit un feutre et coloria toute la bille en noir. Puis, il fit rouler la bille encore une fois. Sophie pouvait voir très exactement où la bille avait roulé, puisqu'elle avait laissé des traces noires sur la planche. « Comment qualifierais-tu le mouvement de la bille ?» demanda Alberto.
« Il est courbe, ça ressemble à une partie de cercle. »
Voilà, tu l'as dit. Alberto la regarda en haussant les sourcils. Enfin, ce n'est pas tout à fait un cercle. On appelle cette figure une parabole.
Si tu veux.
Mais pourquoi la bille s'est-elle déplacée de cette façon? Sophie réfléchit un instant et finit par dire
« Parce que la planche avait une pente ?» La bille a été attirée vers le bas par la loi de la pesanteur.
Oui, n'est-ce pas? C'est tout à fait remarquable. Je fais monter dans mon grenier la première jeune fille qui passe et elle aboutit avec une seule expérience aux mêmes conclusions que Galilée, dit-il en se mettant à applaudir. Sophie craignit une seconde qu'il ne soit devenu complètement fou. « Tu as vu, poursuivit-il, l'effet conjugué de deux forces sur un même objet. » Galilée vérifia qu'il en était de même pour un boulet de canon, par exemple. On le tire en l'air et il continue sa course avant de venir s'écraser au sol. Il a alors décrit la même courbe que la bille de tout à l'heure sur un plan incliné. À l'époque de Galilée, c'était une découverte totale. Aristote croyait qu'un projectile lancé en l'air décrivait une légère courbe avant de retomber à la verticale sur la Terre. C'était donc faux. Et pour prouver l'erreur d'Aristote, il suffisait tout bonnement d'en faire la démonstration.
Oui, mais je n'en vois pas vraiment l'intérêt.
Comment ça? C'est d'un intérêt cosmique, mon enfant. Cette expérience compte parmi les découvertes scientifiques les plus importantes de l'humanité.
Alors, je pense que tu vas m'expliquer pourquoi.
Plus tard,
vint le physicien anglais Isaac Newton, qui vécut de 1642 à 1727. C'est à lui que nous devons la description définitive du système solaire et des mouvements des planètes. Il ne s'est pas contenté de décrire le mouvement des planètes autour du Soleil, mais il a expliqué pourquoi. Il s'est servi pour ce faire de ce que nous appelons la dynamique de Galilée. Est-ce que les planètes sont comme des billes sur un plan incliné? Quelque chose de semblable, en un sens. Mais pas si vite, Sophie. Bon, de toute façon, je n'ai pas le choix. Kepler avait déjà souligné qu'il devait exister une force qui attirait les planètes entre elles. Par exemple, le Soleil devait exercer une force qui obligeait les planètes à rester sur leur trajectoire. Une force de ce type expliquait aussi pourquoi les planètes se déplacent plus lentement au fur et à mesure qu'elles s'éloignent du Soleil. Kepler pensait que le mouvement des marées, c'est-à-dire la variation du niveau de la mer, dépendait d'une force exercée par la Lune. Mais c'est vrai? Oui, c'est vrai. Mais Galilée contesta ce point. Il se moqua de Kepler qui avait soutenu l'idée que la Lune règne sur l'eau. Galilée ne croyait pas en effet que des forces de gravitation puissent agir sur de si grandes distances et entre différentes planètes. Là, il avait tort. Oui, sur ce point, il avait tort. Et c'est un peu troublant car il s'intéressait tout particulièrement à la force d'attraction terrestre et à la chute des corps sur la Terre. Il avait par ailleurs mis en évidence l'interaction de plusieurs forces sur les mouvements d'un seul corps. Mais tu as mentionné Newton. Oui, Newton vint et formula ce que nous appelons la loi de la gravitation universelle. Cette loi dit que chaque corps attire un autre corps avec une force qui est proportionnelle à la masse des corps et inversement proportionnelle au carré de la distance qui les sépare. Je commence à y voir plus clair. La force d'attraction est plus grande entre deux éléphants qu'entre deux souris, par exemple. Et la force d'attraction sera plus grande entre deux éléphants d'un même zoo qu'entre un éléphant aux Indes et un éléphant en Afrique. Je vois que tu as compris ça. J'en viens à présent au point essentiel. Cette attraction ou gravitation est, selon Newton, universelle, ce qui veut dire qu'elle s'applique partout, même entre les planètes. On raconte qu'il eut cette intuition alors qu'il était assis sous un pommier. En voyant tomber une pomme, il se serait demandé si la Lune aussi subissait l'attraction terrestre, et si c'était pour cette raison qu'elle tournait éternellement autour de la Terre. Ce n'était pas bête. Encore que quoi, Sophie? Si la Lune subit la même attraction terrestre qui fait tomber une pomme, elle finirait par tomber elle aussi au lieu de tourner indéfiniment autour de la Terre comme autour du pot. Voilà que nous pouvons aborder la loi de Newton sur le mouvement des planètes. Concernant la force d'attraction qu'exerce la Terre sur la Lune, tu as à moitié raison, ce qui veut dire que tu as à moitié tort. Tu veux savoir pourquoi la Lune ne tombe pas sur la Terre, Sophie? Il est vrai que la Terre exerce sur la Lune une force d'attraction incroyable. Tu n'as qu'à t'imaginer quelle force il faut déployer pour soulever le niveau de la mer d'un mètre ou de deux quand c'est marée montante. Je ne comprends pas bien. Pense au plan incliné de Galilée et à ce qui s'est passé quand j'ai fait rouler la bille de travers. Tu veux dire qu'il y a deux forces différentes qui agissent sur la Lune? Exactement. Un jour, il y a fort longtemps, la Lune a été projetée avec une force terrible au loin. C'est-à-dire loin de la Terre. Cette force, elle la gardera pour l'éternité, car elle se déplace dans un espace sans air, où elle ne rencontre aucune résistance. Mais elle devrait être attirée par la Terre en vertu de la loi de l'attraction terrestre. Oui, mais ces deux forces sont constantes et s'exercent simultanément. C'est pourquoi la Lune continuera à tourner indéfiniment autour de la Terre. C'est vraiment aussi simple? Oui, et c'est justement cette simplicité que Newton tenait à mettre en évidence. Il démontra qu'un petit nombre de lois physiques sont valables en tout point de l'univers. En ce qui concerne le mouvement des planètes, il s'était contenté d'appliquer deux lois naturelles que Galilée avait déjà révélées. La première était la « loi d'inertie », que Newton formule en ces termes. Chaque corps continue à être dans son état d'immobilité ou de mouvement linéaire égal tant qu'il n'est pas contraint d'abandonner son état sous la pression de forces extérieures. L'autre loi était celle que Galilée avait démontrée pour l'appliquer aux billes sur un plan incliné. Newton a ainsi pu expliquer pourquoi toutes les planètes tournent autour du Soleil ? Exactement. Toutes les planètes décrivent autour du Soleil des ellipses, qui sont le résultat de deux mouvements différents. Le premier mouvement en ligne droite est celui qu'elles ont reçu lors de la formation du système solaire, et le deuxième est la conséquence de l'attraction universelle. Ah, c'est ingénieux !
Je ne te le fais pas dire.
Newton démontra que ces mêmes lois régissent tout l'univers. Il balaya ainsi définitivement toutes les vieilles croyances issues du Moyen-Âge, selon lesquelles le ciel obéirait à d'autres lois que la Terre. La représentation héliocentrique du monde fut enfin expliquée et reconnue une bonne fois pour toutes. Sur ces mots, Alberto se leva et remit le plan incliné dans le tiroir où il l'avait pris. Il ramassa la bille, mais se contenta de la poser sur la table entre eux. Sophie n'en revenait pas de tout ce qu'ils avaient pu déduire d'une simple planche inclinée et d'une bille. À regarder cette bille qui gardait des traces de feutre noir, elle ne pouvait s'empêcher de penser au globe terrestre. Elle demanda « Et les hommes ont dû accepter l'idée de vivre sur une planète quelconque perdue dans le vaste univers ?»
Oui, la nouvelle représentation du monde fut, à maints égards, un choc terrible.
On peut faire une comparaison avec l'effet qu'eut la théorie de Darwin plus tard quand il démontra que l'homme descendait des animaux. Dans les deux cas, l'homme perdait quelque chose de son statut privilégié au sein de la création. Dans les deux cas, ces théories se heurtèrent à une farouche opposition de l'Église.
Ça ne m'étonne pas, car que reste-t-il de Dieu dans tout ça ? Il faut reconnaître que c'était plus simple quand la Terre était le centre de l'univers et que Dieu et les planètes habitaient à l'étage du dessus.
Mais ce ne fut pas encore la provocation la plus grande. On aurait pu croire qu'en démontrant l'universalité de ses lois physiques, Newton remettait en cause la souveraineté de Dieu, alors que sa foi resta inébranlée. Il considérait en effet les lois physiques comme la preuve de la toute-puissance de Dieu. Le pire, c'était peut-être l'image que l'homme avait de lui-même.
Qu'est-ce que tu entends par là ?
Depuis la Renaissance, l'homme a dû se faire à l'idée de vivre sur une planète perdue au sein d'un vaste univers. Cela dit, je ne crois pas que l'on s'y soit vraiment habitué, même de nos jours. Mais à la Renaissance, certains soulignèrent le fait que l'homme occupait désormais une place plus centrale qu'avant.
Comment ça ?
Auparavant, la Terre avait été le centre du monde. Mais depuis que les astronomes avaient démontré qu'il n'existait pas de centre absolu dans l'univers, il y eut autant de centres qu'il y eut d'êtres humains.
Je vois.
La Renaissance établit une nouvelle relation à Dieu. Au fur et à mesure que la philosophie et la science s'éloignèrent de la théologie, apparut une nouvelle forme de piété. Avec la Renaissance, l'image de l'homme, elle aussi, changea, et cela eut des conséquences pour la foi individuelle. La relation à l'Église, comme organisation, s'effaça devant la relation personnelle de chacun à Dieu.
Tu veux parler de la prière du soir, par exemple ?
Oui, ça aussi. Dans l'Église catholique au Moyen-Âge, la liturgie latine et les prières rituelles de l'Église avaient formé la colonne vertébrale de la messe. Seuls les prêtres et les moines pouvaient lire la Bible, car elle n'était écrite qu'en latin. Mais, à partir de la Renaissance, la Bible fut traduite de l'hébreu et du grec en langue populaire. Ceci fut une étape essentielle pour ce qu'on a appelé la Réforme.
Martin Luther.
Oui, Luther était important, mais il n'était pas le seul réformateur. Il y eut d'autres réformateurs ecclésiastiques qui choisirent de rester au sein de l'Église catholique romaine. L'un d'entre eux était Érasme de Rotterdam.
Luther rompit avec l'Église catholique parce qu'il ne voulait pas payer les indulgences, n'est-ce pas ?
Oui, c'est vrai. Mais il s'agissait de quelque chose de beaucoup plus important. Selon Luther, l'homme n'avait plus besoin de passer par l'Église ou par les prêtres de l'Église pour obtenir le pardon de Dieu. Cela dépendait encore moins des indulgences que l'on devait payer à l'Église. Précisons que le commerce des indulgences fut condamné au sein de l'Église catholique vers la deuxième moitié du XVIe siècle.
Cela a dû faire plaisir à Dieu.
Luther a vraiment pris ses distances vis-à-vis d'un grand nombre de coutumes et de dogmes religieux dont était truffée l'Église depuis le Moyen Âge. Il voulait revenir au christianisme du Nouveau Testament. « L'Écriture seulement », disait-il. Avec ce mot d'ordre, Luther entendait revenir aux sources du christianisme, comme les humanistes de la Renaissance voulaient retrouver l'Antiquité dans les domaines artistiques et culturels. Il traduisit la Bible en allemand et jeta ainsi les fondements de la langue écrite allemande. Chacun devait pouvoir lire la Bible et, d'une certaine façon, devenir son propre pasteur.
Son propre pasteur ? Est-ce que ce n'était pas aller trop loin ?
Les prêtres, selon lui, ne jouissaient pas d'une relation privilégiée avec Dieu. Dans les communautés luthériennes, on nomma pour des raisons pratiques des pasteurs pour dire la messe et vaquer aux diverses tâches quotidiennes de l'Église. Mais il était persuadé que l'homme n'obtenait pas son pardon et la rémission de ses péchés en observant des rituels religieux. La foi seule offrait gratuitement à l'homme son salut. Cette conception lui venait de la lecture de la Bible.
Alors Luther aussi est typiquement un homme de la Renaissance ?
Oui et non. Un trait caractéristique de la Renaissance est la place centrale de l'homme dans son individualité et de sa relation personnelle avec Dieu. À l'âge de 35 ans, il apprit le grec et entreprit de traduire la Bible en allemand. Le fait que le latin s'efface au profit de la langue populaire relève aussi typiquement de la Renaissance. Cela dit, Luther n'était pas un humaniste comme Marcille Ficin ou Léonard de Vinci. Il se heurta à l'opposition d'autres humanistes, tels Érasme de Rotterdam, qui jugeait sa conception de l'homme par trop négative. Luther soulignait en effet que l'homme était un être totalement détruit après la chute. Seule la grâce de Dieu peut rendre justice à l'homme. Car le prix à payer pour le péché, c'est la mort.
C'est pas très gai, tout ça.
Alberto Knox se leva, prit la bille sur la table et la fourra dans sa poche de chemise.
Oh, il est déjà plus de 4 heures,
s'écria Sophie. La prochaine grande époque dans l'histoire de l'humanité, c'est le baroque. Ce sera pour une autre fois, ma chère Hilde.
Qu'est-ce que tu viens de dire ?
Cria Sophie en sautant de sa chaise.
Tu as dit « ma chère Hilde ».
Je me suis trompé, c'est tout.
On ne se trompe pas par hasard.
Tu as sans doute raison. Peut-être que le père de Hilde est parvenu à parler à travers nous. Je crois qu'il profite de la situation quand il nous sent fatigués et moins armés pour nous défendre.
Tu as dit que tu n'étais pas le père de Hilde. Peux-tu me jurer que c'est vrai ?
Alberto fit un signe de la tête.
Mais Hilde, c'est moi ?
Je suis fatiguée à présent, Sophie. Tu dois comprendre ça. Cela fait plus de 2 heures que nous sommes ensemble, et j'ai parlé presque tout le temps. Tu ne devais pas rentrer à temps pour le repas ? Sophie avait l'impression qu'il cherchait à la mettre dehors. Tout en se dirigeant vers la porte d'entrée, elle se demanda encore une fois pourquoi il s'était trompé de prénom. Alberto la raccompagna à la porte. Sous une petite penderie, où étaient suspendus toutes sortes de vêtements bizarres qui faisaient penser à des costumes de théâtre, Hermès sommeillait. Alberto désigna de la tête le chien en disant « Il viendra te chercher. »
« Merci pour le cours d'aujourd'hui, » dit Sophie.
Elle fit un petit saut et embrassa Alberto.
« Tu es le prof de philo le plus intelligent et le plus gentil que j'ai jamais eu, »
ajouta-t-elle. Puis, elle ouvrit la porte d'entrée. Avant que la porte ne se referme, elle entendit Alberto lui dire « On se reverra sous peu, Hilde. » Là-dessus, elle se retrouva livrée à elle-même. Il s'était encore trompé de prénom. Oh, le lâche ! Sophie eut furieusement envie de remonter frapper à la porte, mais quelque chose la retint. Une fois dans la rue, elle se rendit compte qu'elle n'avait pas d'argent sur elle. Elle allait être obligée de faire tout le chemin du retour à pied. Oh zut ! Sa mère lui ferait une de ces scènes si elle n'était pas rentrée à 6 heures. Elle avait à peine fait quelques mètres que ses yeux tombèrent sur une pièce de 10 couronnes sur le trottoir. C'était exactement ce que coûtait un billet de bus. Sophie trouva le prochain arrêt et attendit un bus qui allait en direction de la Grand Place. De là, elle prendrait un autre bus qui la ramènerait tout près de chez elle. Tandis qu'elle attendait le second bus sur la Grande Place, elle se dit qu'elle avait vraiment eu de la chance de tomber sur une pièce de 10 couronnes au moment où elle en avait besoin. Et si c'était le père de Hilde qui l'avait déposée là exprès? Quand il s'agissait de laisser traîner des objets aux endroits les plus invraisemblables? Mais comment s'y prenait-il s'il était au Liban? Et pourquoi Alberto s'était-il trompé de prénom? Pas seulement une fois, mais à 2 reprises. Sophie en eut froid dans le dos.